Chapitre 9. À quelques jours de là, Geneviève remarqua que le château était en révolution. Au premier étage, on faisait grand ménage dans les appartements de réception et, à la cuisine, il y avait un mouvement inusité qui annonçait les préparatifs d'un grand dîner. Cependant, sa tante ne lui disait rien. Mais, un mardi, après l'heure de la sieste, ou plus justement de la musique, elle la prévint qu'elle attendait des amis pour dîner, la comtesse de Jarvelac et son fils, un jeune homme, dont le père Élisée, un franciscain, son précepteur, avait fait un modèle accompli sous tous les rapports. La piété, l'instruction, la douceur, ajoutées aux qualités natives qu'il avait reçues de son père et de sa mère, la distinction des manières et la beauté corporelle, en un mot, un charmant garçon. Et elle lui demanda de s'habiller pour le dîner. « Je n'ai que ma robe de concert. » « Eh bien, mets ta robe de concert et fais-toi belle. » Cela était clair. Elle monta à sa chambre, très émue, non pas parce qu'un jeune homme, un charmant garçon, allait arriver, mais parce que cette arrivée était le début d'une lutte avec sa tante. Il allait falloir dire qu'elle n'en voulait pas de ce charmant garçon, ce modèle accompli sous tous les rapports. Comment sa tante accepterait-elle ce refus et qu'en résulterait-il ? Comme elle pensait à cela, une voiture roula sur le gravier du jardin et s'arrêta devant le perron. Si peu curieuse qu'elle fût ordinairement, elle ne put résister à l'envie de voir quelles étaient au vrai la distinction des manières et la beauté corporelle du mari que sa tante lui destinait. Elle courut à sa fenêtre et, comme les persiennes étaient fermées, elle put, à travers les lames, regarder sans crainte d'être vue. C'était vraiment un beau garçon de 22 à 23 ans que celui qui descendait de voiture, grand, fort, joufflu, aux yeux noirs et doux, habillé avec recherche, ayant dans toute sa personne une attitude et un air de timidité ou de contrainte. Aussitôt qu'il fut à terre, il se retourna pour donner la main à une petite femme habillée de noir, avec une négligence et un dédain de la toilette qui se traduisait dans tout son costume, et particulièrement dans ses souliers à la haute anglaise en peau de chèvre sans talons. À coup sûr, ce n'était pas à elle que son fils avait pris son air timide, car elle semblait au contraire une femme de résolution et d'action, pleine de vivacité et de décision. Au lieu de tendre le bras à sa mère pour entrer avec elle dans le vestibule où Mademoiselle de Puylaurens les attendait par peur des courants d'air, il resta à la portière de la calèche pour aider le père Élisée, dont elle aperçut la tête tondue, entourée d'une étroite couronne de cheveux gris. Bientôt, le capuchon du froc brun du moine parut, puis le moine lui-même, ceint de sa corde. C'était le premier franciscain qu'elle voyait. Elle fut toute surprise qu'il eût les pieds nus dans des sandales. Il descendit lourdement, s'appuyant sur les deux bras de son ancien élève. Alors c'était là son mari, ce jeune homme. Eh bien, sa tante avait raison de trouver que c'était une drôle d'idée de se marier. Comme tous les hommes qu'elle voyait lui paraissaient mal, ou niais, ou prétentieux, ou nuls, ou durs, les blonds fades, les bruns vulgaires, les châtains sans caractère, les maigres décharnés, les gras soufflés, les petits comiques, les grands gauches. Il n'y en avait qu'un à qui elle revenait toujours pour lui trouver les qualités qui manquaient aux autres. Il n'était ni trop gras, ni trop maigre, celui-là, ni trop petit, ni trop grand. Il était de la couleur qu'on devait être, il avait les qualités qu'on doit avoir, c'est-à-dire qu'il les avait toutes. Elle resta dans sa chambre jusqu'au moment où sa tante la fit prévenir de descendre. Ce fut sans embarras qu'elle entra dans le salon où tout le monde était réuni. Pourquoi prendre souci de ces gens ? C'était comme si elle paraissait devant son ancien public à une représentation qu'elle donnait. D'ailleurs, eût-elle été gênée qu'elle se fût fait violence pour se montrer aimable. Ce n'était pas parce qu'elle ne voulait pas de ce mari qu'elle devait peiner sa tante. Après tout, il n'était pas ridicule comme M. d'Arlanzon, et si elle n'avait pas aimé Ernest, elle l'aurait peut-être trouvé très bien. S'il n'était pas ridicule, au moins était-il étrange. Ainsi, il ne parlait qu'après que sa mère avait commencé. Alors il semblait que c'était un couplet qu'il achevait et qu'il disait, les yeux attachés sur le père Élisée, comme si celui-ci avait été son chef d'orchestre. et cela était d'autant plus sensible qu'à certains moments, le franciscain se posait un doigt sur les lèvres, et alors le comte de Jarvelac se taisait brusquement, sans même achever sa phrase, que sa mère finissait, mais pour arriver à une conclusion autre que celle pour laquelle il avait paru partir. Le seul convive étranger était le doyen, qui fut placé à la droite de mademoiselle de Puylaurens, tandis que le franciscain occupait la gauche. Pour Geneviève, on lui donna pour voisins la mère et le fils. Dégagée de toute crainte sérieuse quant à l'avenir, elle eut la gaminerie de vouloir voir ce qu'il y avait dans ce charmant garçon, comme si c'était un bébé mécanique dont on lâchait et dont on arrêtait le ressort pour le faire parler et le faire taire à volonté. Mais il ne lui fut pas facile, comme elle se l'était imaginé, de l'entraîner dans une conversation particulière. C'était sa mère qui lui donnait la parole, c'était le père Élisée qui la lui coupait. Les autres n'en avaient pas le secret. D'ailleurs, madame de Jarvelac paraissait aussi, de son côté, vouloir voir ce qu'il y avait en elle, en la faisant causer tantôt sur un point, tantôt sur un autre, en vrai interrogatoire, mais un interrogatoire dirigé par une femme du monde qui mettait autant de bonne grâce que d'amabilité dans ses questions, posées d'une voix douce et avec des sourires caressants, ce qui ne l'empêchait nullement d'obtenir les réponses qu'elle voulait et d'apprendre ce qu'elle tenait à savoir. Ainsi, occupée et distraite, elle ne put pas s'adresser au jeune comte aussi souvent qu'elle l'aurait voulu, ni engager avec lui des entretiens qui l'auraient obligée à montrer où il cachait son grand ressort. Cependant, comme elle était parfaitement maîtresse d'elle-même et sans aucune émotion, puisqu'elle n'avait rien à cacher et qu'elle ne tenait pas davantage à plaire, elle put au moins l'observer. Et ce qui la frappa, ce fut la surveillance et l'autorité que le père Élisée exerçait sur lui, à ce point qu'il n'osait pas laisser remplir son verre sans en demander auparavant la permission au père, qui la lui donnait en inclinant légèrement sa tête rasée, ou qui la refusait en levant l'index. Pour parler, c'était la même chose que ce qu'elle avait remarqué au salon. Sa mère commençait, il continuait, et le père le surveillait, le laissant aller ou l'arrêtant. Quand elle parvenait à échapper à madame de Jarvelac pour l'interroger directement, le comte ne répondait jamais, sans avoir auparavant regardé le père pour lui demander s'il pouvait parler ou s'il devait se taire. Et c'était là un modèle accompli sous tous les rapports. L'instruction, la douceur, la distinction, et il avait 23 ans. Alors, pensant à cela, il y avait des moments où elle gardait le silence, réfléchissant, sans qu'on pût tirer d'elle un mot, sans qu'elle pensât à manger ou à boire. 23 ans, 23 ans, se répétait-elle, à quel âge marcherait-il donc tout seul? Quand elle était toute petite encore, elle avait eu un superbe polichinelle articulé que sa tante lui avait donné précisément, et longtemps il leur avait servi de jouet à Odile et à elle. On le suspendait à une barre sur le balcon. Odile, de son côté, prenait à travers la grille de séparation les fils qui faisaient mouvoir la tête, les yeux et la mâchoire. Elle, de son côté, prenait ceux qui mettaient en mouvement les bras et les jambes, et alors elle lui faisait exécuter des grimaces, d'autant plus drôlatiques que celle de la tête était en opposition avec celle des jambes. Eh bien, par une association d'idées qu'elle ne pouvait écarter, le charmant jeune homme, tiraillé entre sa mère et son ancien précepteur, lui rappelait si bien son polichinelle qu'elle en riait toute seule. Et cependant, il avait vraiment l'air d'un bon garçon. Pendant la soirée, il fut autre, cependant, que ce qu'il avait été pendant le dîner. Elle s'était mise au clavecin, et ensuite elle avait joué sur un orgue que sa tante lui avait donné en ces derniers temps, quelques morceaux de musique religieuse, notamment le chœur du Judas Maccabée de Handel. Alors, ça avait été madame de Jarvelac qui avait commencé à la complimenter. Mais, brusquement, son fils avait pris la parole, et sans regarder sa mère ni le père Élisée, il s'était exprimé bravement, disant ce qu'il avait à dire, avec feu, en homme qui sent et que son émotion entraîne, la louant avec un enthousiasme intelligent, non avec des paroles de banale politesse. Vainement, le franciscain avait levé son doigt plusieurs fois, il avait été jusqu'au bout.